Chapitre 6. En plein courant. Jamais vous n'en viendrez à bout, pauvrette. Celui qui prononçait cette encourageante parole était M. Nantus, le vieux caissier à cheveux gris, debout derrière Ferdine, laquelle, avec une évidente maladresse et une bonne volonté non moins évidente, s'escrimait sur sa machine à écrire. « Monsieur Nantus, je n'aime point du tout à être appelée pauvrette !» s'écria Ferdine d'un ton pétulant. « C'est que je vous appelle ainsi dans mon esprit, » fit le vieil employé de sa voix cassée et paternelle. « En m'adressant à vous, je devrais dire mademoiselle pauvrette, évidemment. » Ferdine ne put s'empêcher de rire. « Et c'est très mal aussi de dire que je n'en viendrai jamais à bout, » poursuivit-elle, les doigts sur les touches, l'air appliqué et douloureux d'une petite fille qui fait ses gammes. « C'est pour cela, c'est bien pour cela, » continua le vieux monsieur en hochant la tête, « que je n'ai jamais voulu me marier. » « À cause de la machine à écrire ?» demanda Ferdine stupéfaite. M. Nantus avait acquis, dans le cercle de ses collègues, quelque notoriété pour l'imprévu de ses remarques. « Parce que, dit-il, si on se marie, on risque de laisser derrière soi des enfants, une pauvrette comme vous, sans avoir eu le temps de la bien pourvoir, et alors, qu'arrive-t-il ? » « Elle gagne sa vie et n'en est pas plus malheureuse, » répliqua Ferdine avec indignation. « Si mon cher papa ne m'a pas laissé beaucoup d'argent, c'est qu'il était généreux pour les indigents et les malades. »« Précisément, pauvrette, précisément, et vous voilà seule, toute seule, au milieu de ce monde méchant. »« Seule ? Non, » dit Ferdine, dont le cœur se serra un peu néanmoins. « J'ai mon frère Siméon qui m'écrit très souvent, j'ai sa tante qui est comme la mienne, et madame et mademoiselle Miserlet, les plus excellentes amies qu'on puisse avoir. » Et puis, il y a vous, monsieur Nantus, vous m'avez déjà rendu tant de services. Bien, bien, ne parlons pas de ça, pauvrette, dit le caissier, s'éloignant aussitôt, les bras pendants, le dos voûté, sa plume derrière l'oreille, passant entre deux mèches de cheveux gris. Monsieur Nantus portait toujours au bureau des pantoufles en tapisserie, renouvelées chaque premier de l'an, et la question éternellement pendante était de savoir quelle main les lui brodait. Un bouquet de violettes sur fond noir ornait les pantoufles de cette année-ci. L'année d'avant, c'était un trophée de chasse, gibecière et carabine sur fond rouge. On pouvait en conclure tout ce qu'on voulait. Ce qui est bien certain, c'est que, sans M. Nantus, Ferdine aurait eu des commencements difficiles. Le premier jour, M. Escandier, qui, par principe et par dignité, causait fort peu, lui avait donné des directions très brèves et l'avait prié de feuilleter le copie de lettres pour s'initier au style commercial. Il avait ajouté que, dans une quinzaine, étant intelligente, elle ne manquerait pas de connaître à fond le maniement de la machine à écrire et tout ce qui concernait la correspondance. Puis, jetant un regard étonné sur le coupe-papier oriental, précieux bijou de jade et d'or que Louise avait forcé son amie d'accepter, monsieur le patron était sorti du petit bureau. Le lendemain, il vit trois photographies autour de la machine à écrire dans des cadres de bois unis, cornés de petits nœuds de ruban mauve. « Ce sont là vos esprits familiers, » remarqua monsieur le patron, qui condescendit à sourire, mais en lui-même pensa « trop de fantaisie ». Le surlendemain, c'était une petite coupe de cristal où trempées, parfumées et gentilles, une poignée de violettes d'automne avec des brins de réséda. Et le jour suivant, chose plus grave, une magnifique fourrure grise sur le parquet froid. « Votre bureau ressemble à un salon, » dit gravement M. Escandier qui s'en alla et, traversant la grande salle, s'arrêta auprès de M. Nantus. « Je crains, dit-il, que la jeune personne que j'ai engagée comme correspondante n'ait un tour d'esprit peu pratique. » M. Escandier avait une très grande confiance dans les aptitudes et le coup d'œil commercial de son vieux caissier, dont il demandait et suivait les avis en maintes occasions. « À cause des bibelots qu'elle sème ici et là dans le petit bureau, que voulez-vous, la femme est un mystère, » fit M. Nantus, que l'on entendait souvent répéter cet aphorisme. « Une femme est triste, elle fourre son nez dans un brin de réséda et la voilà consolée. Si j'étais vous, tout en restant à ma place, assurément, monsieur, » fit le vieux caissier qui ne prenait jamais de liberté avec son patron et n'entendait pas non plus qu'on en prît à son égard. « Si j'étais vous, je passerais à cette jeune personne ses deux ou trois caprices. Elle est très intelligente et elle travaille bien. Vraiment, je suis heureux de l'entendre. Elle travaille très bien, avec zèle, avec intérêt. La statistique des chapeaux de paille la passionne. Elle fait des questions, elle réfléchit. Je ne serais nullement étonné qu'elle nous découvrit de nouveaux débouchés. La femme est un mystère, personne ne saura jamais d'où ses idées lui viennent. Seulement, il y a cette machine à écrire. Je doute fort que Mademoiselle Arvoine apprenne à manier ça. Voilà bien votre préjugé contre tout ce qui est nouveau, fit le chef avec indulgence. Toute maison de commerce qui se respecte a maintenant une machine à écrire. Oui, et la calligraphie se perd, et à quoi sert-il à présent d'avoir une écriture convenable ? Murmura M. Nantu, dont la belle main était unanimement admirée. D'abord, mon cher Nantu, dit son chef pour l'apaiser, on n'écrira jamais à la machine dans vos livres, et puis il est des qualités, la ponctualité, le zèle et la droiture d'un fidèle employé, qu'aucune machine ne remplacera. Je crains néanmoins, répondit M. Nantu, qui aimait à avoir le dernier mot, que vous n'ayez fait une dépense inutile en achetant cette machine, et crainte plus sérieuse que Mademoiselle Arvoine ne s'idiotise en l'apprenant. Ce serait grand dommage. Assurément, dit M. Escandier, qui s'éloigna pour cacher un sourire. La première chose que Ferdinand apprit fut sa totale ignorance. Elle ne savait rien, mais rien de ce qu'elle aurait dû savoir. Elle ne savait pas même téléphoner. Quand, au matin de son installation, seule et plongée dans l'étude de ce copie de lettres qui devait être son professeur, elle entendit retentir tout près d'elle la stridente petite sonnette du téléphone. Elle fit un bond, resta une seconde immobile devant l'appareil, apeurée, puis courut à la porte du grand bureau. Par bonheur, au léger bruit de la serrure, M. Nantu tourna la tête et Ferdine lui adressa un signe de supplication. Elle n'eut jamais osé dire à haute voix « Oh, venez m'aider, quelqu'un, je ne sais pas comment on téléphone !» Les deux commis, dont l'un portait moustache, tandis que l'autre était un volontaire allemand mal courtois, lui faisaient grand-peur. M. Nantu arriva bien vite au petit trot de ses pantoufles. Il avait été présenté la veille à Ferdine par Mme Beaugivy, leur commune hôtesse, avec tout le cérémonial nécessaire et même davantage. « Qu'y a-t-il ? Qu'y a-t-il ? » fit M. Nantu quand la porte se referma derrière lui. « Le téléphone, je vous en supplie, écoutez-les sonner !» dit Ferdine, aussi pâle que si la petite sonnette eût été un glas funèbre. « Déjà une minute perdue, et chaque minute se paie, n'est-ce pas ? Mais je paierai cela de ma poche si l'on veut seulement me dire combien cela coûte !» poursuivit-elle tout agitée. Déjà, M. Nantu, planté devant l'appareil, répondait d'une voix mâle « Voilà !» et, appliquant l'un des cornets à son oreille, tendait l'autre à Ferdine pour qu'elle fît comme lui. Alors, pour la première fois, tous ses sens concentrés dans cette expérience nouvelle, Ferdine entendit le « Tch, tch, tch » bizarre qui chatouille le tympan, puis la petite voix lointaine, aussi lointaine, qui vous donne l'impression d'une minuscule personne, haute à peine comme l'ongle, assise au fond du cornet. « J'ai tout compris » cria-t-elle triomphante quand la communication fut close. Ferdine approchait de sa 20e année, mais ses ravissements étaient encore ceux d'une enfant. Pendant plusieurs jours, le téléphone fit ses délices et ses plus beaux moments, ses minutes d'excitation et d'intérêt, lui étaient annoncés par l'appel de la petite sonnette. « Je vais faire des économies sur ma pension !» lui dit Louise en confidence, « et aussitôt que je serai assez riche, nous établirons un fil entre ton bureau et Château Pointu. Alors, nous pourrons causer tout le temps. » C'est que Million, ne sachant rien de la vie, n'avait pas encore voulu prendre au sérieux les obligations du travail de Ferdine. Elle trouvait cette nécessité du labeur quotidien, avec la régularité et les petits renoncements qu'elle comporte, une chose odieuse, injuste, faite pour être éludée le plus possible. Cependant, Ferdine n'était point malheureuse ni triste, au contraire. Avec l'ardeur de son âge, elle s'était jetée dans cette activité nouvelle. La défiance d'elle-même, qui pendant un jour ou deux l'avait paralysée, s'était changée en zèle, puis se zèle en intérêt, en enthousiasme. Le style commercial français, allemand et anglais lui semblait plein de charme et lorsqu'elle découvrait dans le copie de lettres quelque forme technique, quelque expression notable, déposée là par le secrétaire qui l'avait précédée, elle brûlait de s'en servir à son tour. Elle trouvait un plaisir infini à composer et à copier des circulaires pour ses clients. Elle les ornait de tours de phrases engageants, elle interrogeait M. Escandier sur les résultats de tant de correspondances. Elle désirait savoir, par exemple, si les chapeaux violets commandés par un club d'étudiants étaient expédiés et si l'on pouvait espérer qu'ils fussent bon teint. Elle cherchait, quand elle avait un instant de loisir, dans les lettres classées de l'année précédente, le chiffre des commandes de telle ou telle maison. Un jour, elle fit remarquer à son patron qu'une série de petits clients peu importants, dans une ville d'Allemagne, n'avaient rien commandé du tout. M. Escandier, fort surpris, fit une enquête et découvrit que son voyageur, négligent et peu consciencieux, avait omis de visiter toute cette partie de la clientèle. M. Nantu faisait de temps à autre une courte visite à Ferdine dans son petit bureau. Ce fut lui qui initia cette novice à la meilleure méthode de copier ce qu'elle écrivait et de classer les lettres reçues. Plus d'une fois aussi, il lui aida à déchiffrer l'informe gribouillage de quelques correspondants allemands ou anglais qui n'avaient pas encore de machine à écrire. Grâce à cette bienveillance toujours disponible, Ferdine n'eut que rarement à recourir aux lumières supérieures de M. Escandier et celui-ci le constata avec satisfaction quand il dit à son fils au bout d'un mois « Je pensais bien que cette jeune personne, laissée à ses propres ressources, parviendrait à se débrouiller ».